Extrêmement intéressant que l'on se jette comme ça dans les questions sur quelle enquête sur la politique comme subjectivité, comme prescription partagée et collectivement partagée après la séance qu'on a eue la dernière fois. Parce que ça nous fait mesurer à quel point on est en haut de la falaise. On a pas mal labouré ce qui, avec ce qu'on avait déjà d'outillage, ce qui pouvait constituer une approche conceptuelle de la métropole et de la multitude dans la métropole. On arrive à une séance d'économie politique passionnante. Et la question qui se pose à nous, c'est la politique comme subjectivité et comme prescription partagée, peut-elle se déduire de l'économie politique et de tout ce qu'on sait avant? Bref, pouvons-nous, après tout ce que nous avons dit sur la multitude et sur la métropole, avoir vis-à-vis de la politique, spontanément, une attitude que, professionnellement, on pourrait dire durkheimienne, ou politiquement, qu'on pourrait dire léniniste, dire, voilà, la conscience découle de l'objectivité. En l'énonçant et en nous regardant dans le miroir en train de l'énoncer, évidemment, je donne un petit peu la réponse, c'est un peu plus compliqué que ça. D'où la nécessité de l'enquête. De l'enquête au sens où, moi, personnellement, j'ai fini par m'y résoudre après 25 années où je suis passé professionnellement de la qualité de sociologue à la qualité d'anthropologue. Je pourrais en discuter longuement. C'est pas un accident de... Pour moi, c'est pas un accident de carrière. C'est une façon de signifier la différence de posture que j'ai prise peu à peu et de grande modestie de terrain que j'ai été obligé d'avoir. Parce que, bon, on voit le problème posé par politique, il y a un problème posé par enquête, il y a un problème posé par mon lieu que je vais essayer de vous exposer. Bon, ça fait 25 ans. Minimum, que je fais des enquêtes avec comme terrain la banlieue et éventuellement avec comme objet la banlieue. C'est une affaire jamais finie. Quand j'ai commencé, et pendant très longtemps, j'ai travaillé en regardant dans le rétroviseur. C'est-à-dire que j'ai travaillé notamment sur les processus politiques en observant et en ayant comme grille de lecture de ce que j'observais l'idée qu'il y avait quelque chose qui s'était constitué là de façon forte, que c'était en train de se défaire et que ça n'arrêtait pas de se défaire. On voit bien que cette déconstruction, elle a un sens et elle n'est pas finie, puisque la déconstruction de la banlieue rouge a précédé la déconstruction du communisme, qui elle-même a précédé la déconstruction de la République, voire de la totalité du système politique partisan à l'heure actuelle. Ce n'était que l'entrée la plus aisée d'un phénomène de crise généralisé dans lequel nous sommes encore complètement englués. Donc, j'ai observé d'abord cette destruction. Observant les politiques de l'État sur la question, et notamment la politique de la ville, dont les racines sont à peu près quand j'ai commencé à travailler là-dessus, au début des années 80, nommé comme tel en 88 seulement, on a été amené, c'était pas tout seul, amené à observer une politique de l'État qui était le contraire d'une politique d'État, c'est-à-dire qui donnait à voir ce que une prescription républicaine pouvait être, comment elle pouvait être en train de se défaire. Dans la multiplication des terrains dérogatoires, des lieux dérogatoires, des politiques temporaires, etc. Donc, déconstruction d'un mode politique, déconstruction d'un mode d'intervention étatique sur la ville, déconstruction parallèlement, ça rajoute une couche à la difficulté, si vous voulez, de nos concepts sociologiques. Parce que, dans le même temps, tous tout autant que nous sommes dépêtrés avec les mouvements anciens qui ne fonctionnaient plus forcément, classe ouvrière par exemple, pour ne prendre qu'un comme ça au passage, des nouveaux mots un peu compliqués à utiliser de façon rigoureuse, du style exclusion, inclusion, intégration. Donc, nous avions observé parallèlement une structure, un mode politique et un mode étatique qui était en train de se défaire, qui était visiblement et territorialement très lié au fordisme, très lié à l'industrie, très lié à une structure politique de classe très lié à une expression partisane de la politique, et en même temps, une mise en difficulté de nos outils intellectuels et de nos outils savants. Voilà à peu près le problème auquel nous sommes confrontés. Pour l'instant, je n'ai pas nommé ce qui pouvait émerger de neuf là-dedans. Parce qu'on regarde dans le rétroviseur et on n'arrête pas de déplorer, scientifiquement ou politiquement. On essaye de réparer, étatiquement. Mais qu'est-ce qui émerge de neuf? On ne le voit pas. Quand on a ce regard-là, on ne le voit pas. Ou pire, on le voit comme quelque chose qui pourrait peut-être être en train de pouvoir retricoter l'ancien. Ah, il y a de la mobilisation qui revient, il y a des choses comme ça. Quand le neuf émerge vraiment, ça se voit, non semble-t-il, par le fait suivant, c'est qu'on ne comprend rien. Voilà. Quand on est devant un truc auquel on ne comprend strictement rien, qu'en prenant les anciens, les moyens, les nouveaux concepts, ça reste complètement obscur et qu'on n'arrive pas à nommer, là on peut se dire qu'on tient quelque chose. Mais ça ne résout visiblement pas le problème, puisque comment, avec quelle intellectualité penser ça? Avec quelle intellectualité penser ça? Peut-être aussi avec l'intellectualité qui est dedans, dans le neuf et dans l'événement. Je vais y revenir. Donc, c'est l'anomalie au sens de Kuhn. C'est le difficile à penser, le grain de sable dans le raisonnement de la science normale précédente, qui nous signale que nous sommes devant quelque chose, qui nous signale quelque chose d'objectivement nouveau, de subjectivement nouveau, et de subjectivement nécessairement nouveau pour le comprendre, c'est-à-dire qu'il faut développer une intellectualité nouvelle pour le comprendre, sauf à mouliner le nouveau dans une intellectualité ancienne. Je vais être assez concret, je vais prendre des exemples rapidement. Je voudrais juste un nouveau préalable avant de prendre ces exemples. Le nouveau préalable, c'est que le problème avec l'ancien qui se meurt, c'est qu'il est toujours là. Et que si la politique partisane et la politique de classe partisane qui a eu ses heures de gloire au XXe siècle n'a plus les effets d'entraînement subjectif qu'on lui a connus, elle a complètement intégré l'espace d'un État qui, tout en étant en crise, est toujours là et fonctionne très bien dans la gestion matérielle du territoire, dans la gestion matérielle des processus sociaux et dans la gestion symbolique, officielle, légitime des processus sociaux. Donc l'ancien est perdu, nécrosé, mais consolidé, intégrant une bonne partie des activités organisées dans son dispositif intellectuel. Et donc, sauf exception, et Dieu merci, nous en avons eu une cette année, sauf exception rarissime, le neuf se manifeste dans des formes d'hybridation, conflictuelles ou non, avec l'ancien. Ce qui rend plus difficile, effectivement, sa localisation et son appréhension de l'intérieur même de sa propre intellectualité. Et du point de vue de l'hybridation, nous en avons eu aussi un exemple cette année. Voilà. Pour essayer de rendre concret ce que je voudrais dire, je vais parler du mouvement de novembre, je vais parler du mouvement du CPE, non pas pour essayer de vous en apporter une analyse ou un tableau exhaustif, mais comme entrée d'enquête particulièrement intéressante sur la question de la nouveauté de l'intellectualité, ou du conflit sur l'intellectualité de la réalité qui est à l'œuvre, c'est le mouvement de novembre, et sur la question de la difficulté liée à l'hybridation entre l'ancien et le nouveau, c'est le CPE. Puis, si j'ai le temps, j'aborderai deux, trois autres questions liées aux politiques publiques et aux subversions des politiques publiques locales. Le mouvement de novembre, quelle euphémisation du concept. On pourrait faire un exercice que j'ai fait dans d'autres lieux, dans un séminaire parallèle au Forum social européen, il y a trois ans de ça. On pourrait faire un exercice sur les mots. On vote à bulletin secret sur quels sont les mots qu'on utilise pour désigner ce qui s'est passé entre le 27 octobre 2005 et le 15 novembre. Et puis ensuite, on argumente les uns et les autres pour savoir quel est le mot qu'on préfère et pourquoi on le préfère. Ça donne en général une séance sur ce genre, sur ces mots conflictuels, ça donne des séances qui durent très longtemps, qui sont extrêmement intéressantes, qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui, mais on voit bien qu'il y a un problème. Comment nommer ? Il y a un problème sur la nomination conceptuelle, les catégories à mobiliser, et je pense, je ne veux pas être pessimiste, je veux simplement être réaliste, je pense que ce problème est définitif. Il y a des choses comme ça. On en a connu, hein, des moments comme ça qu'on a du mal et qu'on continue à avoir du mal à nommer. 68 en est un. 68 en est un. On a un problème pour nommer. On a un problème pour se mettre d'accord sur ce qui s'est passé et l'intégrer dans des énoncés qui ramènent à d'autres énoncés et à un ensemble d'intellectualités politiques, sociales, à peu près cohérentes. Ce qui est intéressant, c'est que ce problème de nomination, il intervient concernant un événement, des événements. Moi, j'appelle ça des émeutes parce que c'est le mot des jeunes. Voilà. En l'occurrence, voilà, c'est un mot en partage avec les acteurs. Ces événements ont eu lieu sur un problème de mots. Bien. Les morts, Zia Debouna, 27 octobre ici, 3 jours d'émeute localisée, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça à la Rainerie à Toulouse, on a déjà vu ça à Vauvert, enfin, c'est un processus, hélas, un peu rodé. Quand le feu prend à la plaine, c'est, et quand ça touche la France entière, la chronologie nous le montre de façon assez évidente, c'est sur la question des mots qui sont mis par l'État, par le ministre de l'Intérieur notamment, mais sans être contredit fondamentalement, sur les événements et sur ses acteurs. C'est un problème, pas simplement linguistique, mais un problème symbolique. Les mots de l'État, le silence des autres, pris dans le consensus républicain de « c'est pas bien la violence », et au bout d'une semaine, c'est la France entière qui s'enflamme. Donc, il y a un problème, pour mettre des mots scientifiques dessus, mais il y a un problème dedans, dans l'événement, sur la question des mots. Sur la question, et on sait bien, quand on fait des enquêtes auprès des jeunes de banlieue sur comment il faut nommer, quels sont les mots importants, etc., on sait bien qu'il y a des mots qui sont des mots chargés de conflit. Il y a des mots qui sont rejetés, il y a des mots qui sont considérés comme des agressions, il y a des mots qui sont des mots de guerre permanente, de conflit permanent, sur lesquels le sens du mot est un conflit, comme le mot banlieue, notamment. C'est un mot, c'est un terrain de conflit. À la fois stigmatisant, mais revendiqué. Et j'ajoute un dernier point, troisième stade. Le problème, c'est que les mots des acteurs, ben, ils ne sont pas faciles à repérer. Ils ne sont pas faciles à repérer parce que, en guise de mots, on a eu des pierres, comme dit Denis Merklen, l'intervention qu'il a faite à l'école des hautes études, des mots de pierre et des images de feu. Les mots de pierre, oui, des cailloux et les incendies. Non pas par défaut de revendication, non pas par défaut d'une subjectivité prescriptive sur l'État, sur la police, sur ce qui se passe quotidiennement dans ces quartiers-là. Mais c'est mon hypothèse, je suis prêt à en discuter, mais par volonté délibérée de ne pas rentrer en interlocution avec les gens qui étaient devant. C'est-à-dire ce défaut de mots n'est pas un défaut de subjectivité partagée, n'est pas un défaut de discours possible sur l'événement de la part des acteurs, c'est le constat de l'extériorité radicale subie de la part de ces acteurs, de la part de, par ces acteurs, de la part du système politique et étatique dans son ensemble, et revendiquée. Une extériorité revendiquée, les jeunes arrêtés, quand on leur demande pourquoi ils ont brûlé des voitures, refusent de répondre, en partie, majoritairement. Il y a un refus de parler. Donc, du point de vue de l'enquête, là, si vous voulez, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on voit se dessiner les terrains notamment importants, le terrain du langage, le terrain du symbolique, sur lequel, dans un événement qui est radicalement dans le nouveau, s'effectue la ligne de partage, la ligne de conflit durable. On se donne à voir la ligne de conflit durable, la ligne sur le langage,
qu'on peut trouver dans d'autres circonstances d'enquête. Seulement, ça pose un tout petit problème à l'enquêteur, qui se met en chasse et en enquête sur la subjectivité des acteurs qui